7 septembre 1998. À 17h ce lundi-là, est née la première chaîne de télé consacrée aux jeux vidéo, Game One.
Game One.
Game One.
Game One.
Game One.
Dans les couloirs, Patrick Saréa, enfant de Canal et biographe de Les Nuls, ne sait pas encore qu'il va écrire les heures les plus folles de la chaîne. Producteur, réalisateur, animateur, directeur des programmes, Jean-Pat raconte enfin
ma folle histoire de Game One.
Bonjour, bonjour, on est de retour. Ma folle histoire de Game One est de retour avec Jean-Pat, qui est toujours là, toujours vivant.
Oui.
Salut Jean-Pat.
Toujours vivant, toujours debout. Bonjour, bonjour Nicolas.
Voilà, je t'ai tendu la perche, je savais que tu l'aimais cette
bien
chanson.
Sûr.
On vous parle des moments les plus forts de cette chaîne, des coulisses de la chaîne, des moments cultes.
Ouais.
Et parmi ces émissions cultes, il y a bien sûr Level One,
ouais,
précurseur du Let's Play.
Ouais.
Une émission de Marcus, bien sûr. On va parler de Level One invité aujourd'hui.
Oui.
Mais d'abord, Level One, parce que ça, c'est une émission
incroyable. On va garder l'humilité des gens qui ne savent pas ce qu'est Level One et qui nous écouteraient sur ce podcast. Level One, c'est l'ancêtre du Let's Play, tu viens de le dire. Le principe était simple, c'est un programme qui a été proposé dès la création de Game One le 7 septembre 1998 par Marcus himself. À l'époque, c'était réalisé par Jean-Philippe Astou, pas encore Pierre Boulet. Et Level One, c'est la découverte d'un jeu dans les conditions du direct pendant 20 minutes. L'émission faisait 15-20 minutes au début. Et c'est un truc qui a révolutionné l'écoute des téléspectateurs qui ne s'intéressaient pas au jeu. Et j'en profite, puisqu'on parle de Level One, qui est resté un monument et qui est toujours à l'antenne de Game One. Level One, c'est quelque chose qui a permis à Game One de rassurer énormément de parents. Marcus, vous le raconterez encore mieux que moi, on recevait des courriers à Game One de parents qui nous disaient « Merci, j'ai enfin compris l'intérêt que portait mon fils ou ma fille à tel jeu vidéo ou à l'univers des jeux vidéo. » C'est quelque chose de rassurant de par la personnalité de Marcus, hein, Marcus, oui, au gros doigt, Marcus qui joue mal. Et donc, les gens s'identifiaient très rapidement. La force de Marcus, c'est d'avoir cette idée de format et de le porter lui-même avec ce qu'il est. Marcus, il est exactement de ce que vous connaissez de Marcus.
Et ça faisait partie des émissions sur lesquelles vous aviez plus de retours, le plus de retours en tout cas au sein de la chaîne, par courrier, par Minitel, etc.
Oui, alors, je soupçonne, je soupçonne que c'était parce que c'était une des rares émissions réellement incarnées,
oui, oui.
À l'époque du début de Game One. Il y avait les news qui étaient incarnés par Ness en français et Mirabel en anglais, mais c'était des plateaux de lancement et quelques news. Il y avait Tues aussi qui présentait les petits plateaux de lancement de gameplay, mais c'était beaucoup d'images de jeux vidéo Game One et très peu d'humains. Donc c'était un petit peu différent, mais l'intérêt du format, parce que tu as parfaitement raison, l'intérêt du format, il est pour grande partie du succès de Game One. C'est-à-dire,
oui,
d'un seul coup, on est en 98... Et on se dit, mais c'est quoi ce mec qui joue aux jeux vidéo? Imagine la gueule de Thierry Ardisson à l'époque. Il dit, non, c'est pas possible. Enfin voilà. Mais c'est vraiment les premiers succès de Game One, c'est Level One.
Oui. Et puis est arrivé, mais cette émission, elle est arrivée, mais c'est un peu de façon particulière, puisque vous ne l'aviez pas prévu.
Non.
Est arrivé un Level One avec Lilian Thuram, qui est venu tester.
Exactement.
Un jeu qui s'appelle UEFA Striker, un jeu édité par Infogrames,
oui,
les patrons de Game One.
De sinistre mémoire.
On met ça de côté pour l'instant.
Ouais, pour l'instant, ils ne sont que co-actionnaires de Game One.
Donc ça a fait un Level One invité,
ouais,
qui n'était pas vraiment prévu dans vos plans.
Non.
Mais Lilian Thuram était là et il a joué avec Marcus.
Ouais.
On vous passe juste un son, parce que c'est absolument incroyable, ouais, de voir l'effervescence que ça a donné à cette émission. Vous allez le voir dans cet extrait. Il se passe quelque chose entre Marcus et Lilian Thuram.
Ouais.
Ouais, qu'est-ce qu'il fait le gardien?
Attends,
non.
Petite course, oui. Oui, oh. Qui est Marcus Thuram? Je rêve.
Bon, je crois que. Mais qui est ça? Il joue avec moi, lui.
Bah, je suis désolé. Il fallait lui dire de pas me laisser marquer.
Non, non, mais je suis pour part, moi aussi. Il joue avec moi.
Donc là, c'est vraiment des moments qui n'existaient pas, évidemment, dans Level One avant, puisque
non,
Marcus était tout seul. Là, il se passe quelque chose. Donc, peut-être que là, vous vous êtes rendu compte de quelque chose avec ce truc-là.
Alors, il s'est passé... Alors, Marcus faisait venir des copains de temps en temps, dont j'ai fait partie en interne. Il faisait venir des gens, des équipes, des gens passionnés par le jeu vidéo, c'est-à-dire à peu près toute l'équipe de Game One. Et puis là, d'un seul coup, on a une opération commerciale, mais qui n'était pas commerciale. Hein, sinon, vous connaissez la suite. Pour ceux qui connaissent Game One, on en parlera peut-être dans un épisode d'ailleurs. d'ailleurs, très certainement. Mais là, Infogrames, qui est donc co-actionnaire à 50% avec Canal de Game One, nous dit on vient de sortir un jeu formidable. Alors déjà, nous, on rigole quand ils nous disent ça. Mais ils nous disent, il y a Lilian Thuram. C'était Patrick Giordano qui était encore directeur des programmes. Ce n'était pas mon tour. Mon tour arrive après. Moi, j'étais producteur. Donc Thuram débarque dans nos locaux puisqu'il avait signé un accord de promotion sur le jeu. Et donc, Marcus lui met une tôle. Et c'est un moment incroyable. C'est pas insultant que de dire que les footeux sont le premier public du jeu vidéo et pas seulement des jeux de foot. Et donc, moi, dans ma tête, je me dis c'est quand même vachement intéressant. Je suis pas encore directeur des programmes, j'ai pas encore le recul nécessaire pour me dire à quel point c'est intéressant, mais je me dis ça, en fait, ça va faire de la presse. Et ça a fait de la presse. On parlait plus en télé, et c'est ce qui m'est venu après quand j'ai été directeur des programmes, en télé, une émission quotidienne. Bon, bah, c'est dans une grille de programme, c'est là, c'est posé. Quand Marcus invite son pote Jean Pat ou Laurent Patureau pour jouer à un jeu vidéo, c'est pas marqué dans les guides des programmes, même si tu envoies l'info au guide des programmes. Quand tu dis Lilian Thuram, tu as le droit à l'article, puisqu'il y avait des journalistes qui étaient venus, il y avait des photographes. Mon épouse a été fière de poser avec Lilian Thuram, qui était tout fraîchement champion du monde.
Et oui.
C'était vraiment la classe, on était extrêmement heureux. Il y a eu même tout un service de com d'Infogrames qui est venu, et d'ailleurs pour l'anecdote ça me revient, Sébastien Floch, qui est un grand monsieur de la BD et qui à l'époque était journaliste BD et jeux vidéo chez Game One, avait posé avec une plaque, tu sais, de une plaque, ouais, comme de la rue, avait comme s'il donnait des consignes d'entraîneur de foot à Lilian Thuram et ça avait servi d'illustration. Donc c'est Sébastien Floch qui avait fait le figurant. Bref, cet événement là me donne des idées. Et puis quelques mois après, tristement, Patrick Giordano quitte la direction des programmes et quitte Game One avec Ness et Eldidou, et je deviens directeur des programmes. Et là, je suis confronté au quotidien de comment on pousse une grille des programmes au niveau de la presse et du relais presse. Et je me dis, mais bordel, ça a tellement bien marché avec Thuram, il faut qu'on rende récurrent les Level 1 invités. Et donc, j'en parle à Marcus. Marcus est quelqu'un de très attentif à ce qu'il fait. Et donc, au début, il me dit, ouais, mais non, mais on va recevoir n'importe qui. Et je lui dis, ben, on ne va pas recevoir n'importe qui. Un peu quand même, parce qu'il faut suivre un peu la presse et la tendance pour faire des... J'espérais la couve de Télécable Hebdo. On ne l'a jamais eu. Hein. Je spoil avant. On a eu des quarts de couve avec Omar et Fred, avec des gens comme ça, avec Casimir aussi. Mais moi, je visais ce qui est du relais presse et com partout. Et donc, on s'entend avec Marcus pour dire, écoute, ce qu'on va faire, c'est que ceux qui sont chauds pour venir, on les accueille à bras ouverts. On ne part pas sur... celui-là, on s'en fout, on n'aime pas sa musique, on n'aime pas son truc. On se dit, s'il est curieux de venir, c'est-à-dire qu'il a envie de partager et d'échanger, c'est ce que nous, on promeut tous les jours, on le reçoit. Et c'est comme ça, d'ailleurs, j'ai une anecdote qui me revient, puisque en préparant l'émission, Dieu merci, Dieu merci. Laurent Baffy, moi j'étais fan de Laurent Baffy, parce que non, c'est une autre salade, j'étais fan de Laurent Baffy, comme beaucoup de gens, et il me faisait beaucoup rire. Et je me suis dit, putain, Laurent Baffy, quand même, le côté, tu vois, transgressif et tout, peut-être qu'il est curieux de tout. On a fait, mon attaché de presse a contacté Laurent Baffy, et il a dit, bah non, je n'ai rien à branler des jeux vidéo, je ne viendrai pas. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie, quand même. Alors qu'aujourd'hui, je suis sûr que si Game One l'appelle, il court tellement la promo qu'il viendrait. Fin de l'anecdote.
Donc c'était quoi la manière que vous aviez pour choisir les invités? C'était ceux qui étaient chauds et qui vous contactaient, ou vous alliez aussi au devant des gens et vous les contactiez aussi?
Alors l'attachée de presse de l'époque, Nathalie Chambon, je lui dis, écoute, c'est simple, tu vas faire comme avec n'importe qui, tu te mets en relation avec toutes tes copines des différents services de presse, télé, cinéma, sport, tout ce que tu veux, et tu leur expliques qu'on a une case où on invite des gens à découvrir machin, et ceux qui viennent. Ceux qui sont chauds viennent. Avant cette expérience, j'avais joué mon propre carnet d'adresses avec Casimir. Parce que Casimir, alors là, c'était transgénérationnel à l'époque, un peu moins de nos jours. Enfin, à part chanter L'île aux enfants, les gens ne savent pas ce que c'est, L'île aux enfants. Ouais. Mais la génération d'avant, oui, encore. Parce que ça passait sur Canal J en rediff et tout, etc. C'était à l'époque, d'ailleurs, où Canal J avait refait des petits plateaux, etc. Et donc, moi, j'étais copain. J'ai eu cette chance dans ma vie d'être pote et de sympathiser avec Yves Brunier, le papa avec Christophe Izard de Casimir.
Le monsieur dans Casimir.
Le monsieur dedans. Bah, c'est marrant que tu dises ça, tu vas voir, t'es pas prêt. Et donc, je l'avais rencontré quand je faisais des choses pour Canaille Peluche, l'émission jeunesse avec les deux corbeaux, Corbeck et Corbac. Et Casimir était l'un des deux corbeaux, l'autre c'était celui qui faisait Hippolyte, Gérard Camoin. J'avais sympathisé avec eux et tout, on s'entendait très bien. Et je me dis, putain, ça c'est énorme. Pierre Boulet était passé à la Réal, il est aussi de ma génération, il était comme un fou. Et donc j'appelle Yves Brunier, et là, deux anecdotes en une, je vais te faire un cadeau. Yves me dit, oui Patrick, pas de problème.
Alors, bravo pour l'imitation, c'est incroyable.
Il me dit,
c'est exactement la voix.
Salut, c'est Casimir. Et je lui dis, écoute Yves, arrête tes conneries, je sais très bien que tu es Yves Brunier. Bon, je lui dis, écoute, voilà, on fait une émission, blablabla. Il me dit, oui, je viens et tout. Il me dit, mais... moi, quand je fais des prestations à Casimir, parce qu'il faisait les salons, les foires et tout, hein, il fallait
bien
vivre,
sûr, oui.
Il me dit, c'est 12 000 francs. Je dis, Yves, tu peux pas me faire ça, c'est-à-dire que moi, je m'appelle Game One. Le mec voyait...
2 000 euros.
Voilà, le mec me dit, ouais, mais il voyait Canal Plus et tout dans l'actionnariat. Je dis, Yves, vraiment, pour l'amour du ciel, rends-moi ce service, c'est pas possible. Et finalement, il me l'a fait qu'à 6 000 francs. Voilà. Donc, 1 000 balles, c'est ça ? Voilà, 1 000
balles.
Allez, 1 000 balles et je remballe. Allez, tout à 1 000 balles et je remballe. Donc, voilà. Alors, la directrice générale s'est étouffée dans son bureau hein, quand je lui ai dit il va falloir lâcher 6 000 balles pour que Casimir fasse 20 minutes de level one. Et donc, Yves Brunier vient et moi, j'avais donné une consigne. J'avais dit, vous ne m'appelez que quand il est costumé. Je n'ai pas envie de casser le mythe. Je sais très bien qu'il y a quelqu'un dedans. Mais... voilà, mon souvenir d'enfant. Moi, je connais Yves Brunier d'un côté, et puis je connais Casimir de l'autre. Et manque de bol, il y a eu un problème technique de quel ordre ? Je n'en sais foutrement rien. Pierre m'appelle. Viens vite et tout, il y a un problème, il y a un truc et tout. Voilà, Pierre Boulet, le réalisateur, pardon. Ouais, mais il est connu internationalement, enfin, tu vois.
Oui, non, mais j'ai précisé.
C'est comme si tu me faisais préciser Steven Spielberg. Les gens connaissent autant Pierre Boulet.
C'est vrai, excuse-moi. Voilà. Je m'excuse auprès de Pierre Boulet.
Ben, et moi aussi, je l'embrasse. Et donc, j'arrive, et là, Yves Brunier, dans le costume de Casimir, sans la tête. Et m'est venue cette phrase qui est restée culte. Putain, il a bouffé un vieux, Casimir. Et donc, on est parti en fou rire. Yves Brunier l'a très bien pris parce qu'on était copains. Et ça m'a traumatisé. Je ne voulais pas voir. Moi, j'avais rencontré enfant Casimir au salon de l'enfance, mais en entier. Il avait sa tête, le con. Et l'anecdote complémentaire, c'est que Yves Brunier, alors qu'il nous avait rien dit, qu'il avait tapé les 6 000 balles, nous dit, alors moi, au bout de 15-20 minutes, il faut que je respire. Il faut qu'on s'arrête. Et là, on pète complètement le concept de Level One. Donc, s'il est rediffusé sur la chaîne de Marcus ou un jour sur Game One, moi je ne l'ai pas, j'ai que un best-of.
Il y a une coupure, tu veux dire qu'il y a une coupure
dans... Il y a une coupure, il y a un petit fondu sur le jeu et on revient. Parce que Yves Brunier crevait de chaud dans ce costume à la con qui lui a brisé le dos. Hein. Il faut savoir, ce type, vraiment, il a 86 ans aujourd'hui, l'âge de ma maman. Et il a le dos brisé. C'est pour ça que depuis, les prestations sont faites par un autre comédien. Et même la voix, c'est plus lui. Quand tu bookes Casimir aujourd'hui, tu payes et c'est même pas le vrai. Bon, fin de l'anecdote. Mais voilà.
Alors, juste un mot, parce que Level One était enregistré, on le voit dans quelques reportages que vous avez fait, notamment pour CSAT.
Ouais.
Level One était enregistré dans un petit coin comme ça, avec une petite table.
Ouais.
Casimir, qui est énorme.
C'est
une comment
catastrophe.
Vous avez géré le truc ?
C'est une bonne question. On a un peu déplacé les meubles. Le plus dur, c'était le fait de devoir faire une coupure et de marquer une pause. Après, Casimir, c'était vraiment l'événement divertissant. C'est-à-dire que on s'est marré avec Casimir et puis Marcus au gros doigt, imagine Casimir et ses gros doigts. Donc c'était vraiment le moment Madeleine de Proust et c'était vraiment de la rigolade. Dans le best-of que vous pouvez voir de quelques invités de mon époque que je vais mettre sur Bien Vu, il y a un passage de Casimir. Ça se passe très bien, il joue le jeu, il se démerde. Je sais que c'est celui qui a mis le plus de temps à être mis en place pour que Brunier arrive à être dans le bon axe de sa vision dans la bouche de l'écran monitoring pour jouer. Il a quand même voulu jouer et tout, tu vois, c'est pas du semblant, mais c'était plus un moment d'échange rigolo et nostalgique qu'une vraie partie comme il y a pu en avoir avec les autres invités après.
Il avait quasiment jamais joué à un jeu vidéo de sa vie, j'imagine, Yves Brunier.
Il avait joué, mais pas en costume, le con.
Là, on a parlé de Casimir, mais il y a des tas d'émissions qui sont restées cultes.
Ouais.
On va dire un mot sur Jean-Pierre Foucault, mais je crois qu'on fera plus long sur Jean-Pierre Foucault parce que c'est vraiment une des émissions cultes.
Ouais.
Jean-Pierre Foucault est venu tester notamment le jeu qui veut gagner des millions.
Exactement. Jean-Pierre Foucault, il est venu pour la promo et la sortie, donc un peu comme Turam. C'était un moment doux. D'ailleurs, on fera un podcast là-dessus, puisque j'ai une longue interview de Jean-Pierre Foucault de l'époque. Nos copains de CESAT nous avaient suivis toute la journée. Ils étaient venus faire un reportage global, tu vois. Comme quoi, ça ramenait de la presse, du coup, tu vois. Ouais, parce ouais. que CESAT, le canal d'accueil de Canal Satellite, était très regardé. Donc, ça poussait le programme. Télécable Hebdo avait dû en parler. À chaque fois qu'on faisait, il y avait du retour. Et moi, le souvenir que j'ai de Jean-Pierre Foucault, c'est vraiment... un vrai professionnel. C'est pas une façon ouais. de parler, hein, et j'ai pas ma langue dans ma poche, mais Jean-Pierre Foucault, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, une fois que Foucault est parti, « Ouais, mais t'as vu, il nous a pas parlé, machin, il est venu, il est parti. » Et il me dit « Oui, toi, il t'a dit bonjour parce que t'es directeur des programmes. » Mais j'ai dit « Mais non, mais déjà, il sait même pas. » Enfin si, je crois que je lui ai dit, mais il s'en foutait. Mais en fait, Jean-Pierre Foucault, c'est un pro. C'est-à-dire qu'il fait pas semblant. Il est venu parce que dans le cadre de la promotion du jeu qu'il présentait, un jeu vidéo était sorti. Il veut bien jouer le jeu, mais il va pas faire semblant plus que de raison. L'enregistrement s'est extrêmement bien passé. L'échange avec Marcus est vraiment très agréable et très cool. Après, évidemment, Jean-Pierre Foucault, il dit bonjour à la maquilleuse, il dit bonjour au chargé de prod. Les gens qui croisent, il leur dit bonjour. Mais une fois que c'est plié, c'est plié. C'est un vrai professionnel. C'est vraiment... Moi, j'aime ça plutôt que les gens qui font semblant. C'est-à-dire qu'aller se poser au cœur de la rédaction pour dire « Alors, les amis, comment ça se passe à Game One ?» Il en a rien à foutre, le gars.
Tu l'as moins.
Je l'ai moins. Et pourtant, hier, j'ai vu un best-of des Guignols avec Foucault. J'avais oublié comment il en prenait plein la gueule. J'ai regardé ça hier. Mais Jean-Pierre Foucault a été un très doux souvenir. C'est comme Evangélie. Je ne sais pas si tu voulais qu'on parle de Evangélie.
Oui, tout à fait. Oui.
Mais Evangélie, ça a été la première vraie de vraie. Après Casimir et après tout ça, c'est nos services de presse. Alors, quand on m'a dit Evangélie, je ne te cacherai pas que je me suis dit, putain, comment je vais vendre ça à Marcus, c'est pas possible. Ça a beau être mon frère, il va me dire, non, ça va se voir. Et incroyablement ou pas, Marcus a dit, ah ouais, mais elle s'en fout des jeux vidéo. Je dis, écoute, elle s'en fout pas, elle veut venir. Bien sûr, elle sort un disque en ce moment, mais je pense qu'elle est curieuse de ça. Et pareil, ça s'est passé. Elle avait une image de nunuche, légitime ou pas, c'est pas à moi de juger. Voilà, après elle est partie.
Mais énorme succès, hein. Elle vendait des disques par palette.
Elle cartonnait vraiment. Et ça nous a fait venir du monde, petit 1. Et petit 2, c'était un moment très agréable. Il y en a eu plein après qui étaient plus proches de nos ADN communs. Mais c'est toujours pareil, tu vois, Baffy, à l'époque, on trouvait que c'était très drôle ce qu'il faisait, il s'en battait les flancs, il a bien fait de le dire, tu vois. Mais s'il était venu pour une promo, il aurait peut-être été beaucoup moins cool. Et il aurait été peut-être plus comme Ardisson avec Squeezie à dire mais j'en m'en bats les couilles, etc. C'est tant mieux. Tandis que ceux qui venaient, ils venaient de bon cœur parce qu'ils savaient où ils venaient. Hein. On leur annonçait pas tu vas venir vendre ton disque. On disait il y a un jeu, tu dois jouer, etc. Tu vois, on peut parler aussi. J'ai oublié de te dire ça, mais ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué personnellement parce que c'est comme un grand frère de télé. Quand Pierre Lescure a accepté de venir jouer, normalement, c'était un match Bonnel-Lescure. Finalement, Bonnel, il changeait une roue sur le périph, il n'a pas pu venir.
Et
Pierre, il avait dit, ouais, mais moi, je ne veux pas passer pour un baltringue. Bonnel, c'est son univers, le jeu vidéo. Je veux bien jouer à un jeu vidéo, mais on fait un baby avant. C'est comme ça que on a acheté un baby. Il a dit, je vous paye le baby. Il ne l'a jamais payé. Pas grave, Pierre, on t'en veut pas. Et il nous a servi après à la cafette à jouer au baby pendant des années. Mais effectivement, Pierre Lescure, quand il est venu, il a joué à Ready to Rumble, le jeu de boxe, dans lequel Marcus, ça commence, je crois que c'est dans l'extrait, lui dit, mais putain, l'arbitre, on dirait Jean-Marie Messier, et Pierre Lescure se marre. Enfin, c'est un truc de fou. C'est vraiment des moments où les mecs qui venaient vraiment. Alors, je me rappelle même quand il était président de Canal, hein, quand on va le voir, Lescure. Quand on se retrouve avec Marcus dans son bureau avec Alex Berger, qui était son conseiller spécial, Alex Berger qui a entre autres bossé avec les nuls et qui a créé le bureau des légendes, quand on se retrouve dans le bureau, là-dedans, immense bureau dont tout le monde rêvait avec plein de télé et tout ce que tu veux, on menait pas large et en deux secondes, il nous a détendu, il était comme un con, ce qu'il comprenait pas, il nous le disait, etc. Voilà, on a eu à chaque fois des gens qui étaient incroyablement curieux.
Et ce que j'allais te dire, c'est que on découvre souvent dans le Level 1 invité les invités comme on les a jamais vraiment vus. C'est-à-dire qu'on sent que les gens se disent « je suis moins exposé que si je fais une interview ailleurs ». C'est un peu une ambiance plus cool. Marcus, sa personnalité, fait que c'est plus cool, c'est plus amical, etc. Et souvent, on découvre une autre facette des gens.
Oui.
C'est ça qui est assez génial dans cette émission.
Et puis le contexte aussi. Alors, tu as raison sur le côté intimiste de la chaîne, mais il y a aussi le contexte, c'est-à-dire que il y a d'autres émissions où on s'amuse avec les gens, mais là on s'amuse pas. On joue à un jeu vidéo. Il faut bien avancer dans ce putain de jeu vidéo. Donc il y a un problème de focus. Je me rappelle de Christophe Lambert qui avait bien compris la méthode de Marcus et qui dit bah, l'autre il va me faire parler tout du long pour que je perde, donc il répondait quasiment pas à Marcus, il était vraiment en train de jouer.
C'est pas mal.
Et ça c'est l'opposé de la promo classique, c'est à dire que t'as l'agent de l'autre côté qui dit mais putain mais parle lui de ton putain de film bordel, on est venu pour ça, et t'as un Christophe Lambert qui est complètement omnubilé par le jeu. Jean-Pierre Papin aussi est venu, oui. Ça me revient là parce qu'il est dans le best-of.
Oui.
Jean-Pierre Papin, il était venu pour faire la promo de l'association, il a un enfant oui. handicapé, etc. Et il était venu, et c'était un mec qui très vite... Voilà, c'est ça qui était bien avec le Level 1 invité, et ce que je trouvais bien, et Marcus, il a été très heureux qu'on fasse ça, c'est qu'on retrouvait... L'ADN initial de Level 1 était là, c'est-à-dire des potes qui jouaient entre eux. C'était aussi sympa quand Marcus jouait avec les copains de la rédaction à l'antenne que quand il jouait avec les personnalités qui acceptaient de jouer le jeu, quoi.
Ouais, ouais. Alors, juste, on va en parler de plusieurs autres parce qu'ils sont restés cultes. Jean-Paul Rouve.
Ah.
Jean-Paul Rouve. En plus, quand Jean-Paul Rouve est arrivé, toute l'équipe, visiblement, était à fond, mais ouais. comme tout le monde, à fond Robin des Bois, quoi.
Ben, bien sûr. Moi, les Robin des Bois, ben, je les ai découverts sur Comédie. Comédie qui était une chaîne sœur et amie, dont on aimait beaucoup les programmes et qui était à peu près... Elle était beaucoup plus poussée que nous en communication et tout, mais c'était aussi une petite ouais. chaîne de télévision. Les Robins, bah, on a adoré cette découverte de Dominique Farrugia. Et il y avait déjà, et on le voit dans l'extrait, le Pertuche, c'était Radio Bierfoot oui. avant, le fameux sketch.
Non, oui, clairement, oui.
Et il commence à raconter à partir... Et c'est vraiment ce que je te dis, c'est-à-dire que l'intimité de la chaîne et l'intimité de l'émission faisait qu'on avait des moments vraiment... très sincère et très spontané, ce qui est très difficile à avoir en télé, encore plus de nos jours où c'est encore plus encadré, où voilà, un artiste est piloté, enfin c'est pas négatif ce que je dis, mais il vient, il sait pourquoi il est là, et si on parle pas de ce qu'il dit, il va vite rebondir sur pourquoi il est venu. L'annonce, ouais. ça venait en... je veux pas dire de conneries, mais j'ai le souvenir de plusieurs fois où c'est Marcus, imagine, hein, alors qu'il n'est ouais. pas fan de promo, qui devait rebondir à la fin en disant « Ouais, mais au fait, tu sors oui. un disque, mais au fait, t'es sur Comédie tous les jours, mais là, tu joues dans un film. » Et c'était comme ça avec Omar et Fred aussi qui sont venus, et ça a été un moment... C'était ma première rencontre avec Omar et Fred, et puis après, on avait fait des choses qui ont malheureusement... pour moi et heureusement pour eux, étaient annulés sur NT1 puisqu'ils ont fait après le SAV. Mais voilà, Omar et Fred, c'était des mecs. Alors là, c'est encore autre chose parce que eux, dans leur ADN même, initialement, oui. c'était ce qu'ils étaient qui faisaient les personnages et les personnalités. Mais c'est que des moments comme ça et des moments vraiment qui permettaient à Game One d'avoir de la promotion et qui permettaient à Game One de ne pas trahir leur ADN. Moi, je me souviens de téléspectateurs qui, quand ils voyaient la programmation, c'était les forums et les trucs en disant « Ah, n'importe quoi, mais vous êtes des Clodo, Evangeli, on utile, on n'aime pas le rap, machin. » Et ouais. puis finalement, en regardant, bah, ils se disaient « Bordel, tu vois ?»
Nati, tu m'en parlais parce que c'est... Alors, c'est une émission, c'est un Level 1 invité qui est moins connu, mais toi, ça t'a marqué la venue de Nati.
Oui, Nati, en fait, moi, ça m'a marqué parce que le mec était d'une humilité. Et je pense que, tristement, hein, je ne veux pas faire mon voyant, c'est pour ça aussi que malheureusement, ça n'a pas duré pour lui dans ce monde de l'industrie musicale qui en demande ouais. toujours plus. Nati, il était vraiment là. Il aimait la musique, il aimait ce qu'il faisait et il aimait les gens. Il était très humble. Nutty, au moment où on le reçoit, il vend comme un fou. Hein. Il est en haut des classements. Et tu vois, tu parlais d'Evangeli, mais Nutty, à oui. l'époque, c'était vraiment qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il vendait quoi, le mec. Hein. Il pesait lourd. À côté de la petite chaîne Game One, tu vois, il aurait pu faire emballer ses pesées, acheter mon disque, c'est super. D'ailleurs, je crois même qu'on avait mis l'extrait de Nutty, du clip vidéo de Nutty dans le Level One. Oui, je me rappelle.
Ouais.
Mais Nutty, ça m'a marqué parce que on était dans une époque. On en parle beaucoup en ce moment. Dans la période avec comment était la télé avant, comment était le cinéma avant, c'était pas très glorieux, c'était vraiment des années, c'était des années fric, des années frime, vraiment. Et ouais. puis nous, dans notre îlot de passionnés et de la télé et du gaming, on avait du mal à se faire entendre et se faire comprendre. Et finalement, quand on recevait des grosses personnalités elles étaient tout aussi admiratives de notre travail. Moi, je me rappelle, Jean-Pierre Foucault, par exemple, pour revenir sur Jean-Pierre, notre team m'a beaucoup marqué, mais Jean-Pierre Foucault, il était sur le cul de voir comment on bossait et comment ça sortait propre, comme on dit. Ouais, tu vois, ouais. Il se disait, mais c'est pas possible. Enfin, moi, il aurait fallu 14 caméras de plus. Alors, il était très insistant sur le maquillage et il a fallu le maquiller correct parce que c'est un pro de la télé. Mais après, il était vraiment... Voilà, moi, je me souviens de beaucoup d'admiration dans la manière dont on fabriquait les choses de la part des gens qui étaient là et qui étaient invités. C'était très touchant et ouais. très motivant pour nous, tu vois.
Tu penses que Level One Invité a permis de mettre un autre éclairage sur la chaîne, a permis de la montrer différemment, ou en tout cas d'attirer un nouveau public vers cette chaîne? Est-ce que tu penses que ça a un peu bousculé l'histoire de Game One, cette émission?
J'en suis convaincu, parce que il y a la démarche spontanée des parents, comme je te l'ai dit, qui nous écrivaient pour nous dire « J'ai enfin compris mon gamin, comment il passe trois plombes sur un jeu en regardant Marcus. » Et puis après, on a eu la couche un peu des gens un peu... plus grand public, plus grand public, j'allais dire mainstream, mais je déteste ce mot, mais les gens plus grand public qui d'un seul coup se disaient je suis fan de Evangeli, elle aime bien les jeux, tu vois. C'était un peu le label, je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent, c'est très désobligeant. J'ai fait la cagole, je voulais faire la cagole. Non, mais elle était traitée de cagole quand même à l'époque, enfin, c'est pas moi qui invente, enfin voilà. Et ça a permis les Level 1 invités de se mettre à hauteur des autres, c'est-à-dire que, et c'était aussi. La raison pour laquelle je le faisais, au-delà de la presse, je me disais, voilà, t'es fan de Naughty, c'était pas encore les réseaux, les influenceurs, et tout le monde gérait pas ça comme, il y avait que des points de rencontre qui étaient la télé, des trucs comme ça, ou les tournées, et d'un seul coup, un fan de Naughty, c'est ce que j'ai toujours fait, on le verra dans d'autres épisodes, parce que sinon je vais plomber l'ambiance, mais moi, mon combat, il a toujours été de dire... On devient ami avec quelqu'un sur un thème et puis on reste ami avec cette personne parce qu'on voit qu'on a des cultures communes au-delà du thème initial. Moi, ça a été comme ça que j'ai fabriqué les chaînes de télévision pour lesquelles j'ai bossé. Et c'est comme ça qu'on a fait Level 1 Invité, en se disant, si les mecs... C'est pour ça que tout de suite, on ne s'est pas mis la contrainte. Enfin, tu vois, je ne me souviens pas d'avoir bataillé pour avoir quelqu'un du haut de l'affiche, forcément, tu vois. Dire... Alors, je me souviens même de fois où on a refusé. C'est-à-dire que il y avait des attachés de presse, surtout dans les boîtes de prod musicale, Universal, etc., qui nous disaient « Je peux t'avoir Naughty, mais par contre, il faut que tu prennes Jean-Yves Boum Boum Tagala. » Et puis, il y a Yvette qui sort un single. Et nous, on disait « mais non, on ne peut pas. C'est pas ça. » C'est-à-dire que nous, on ne poussera personne. Tu vois, alors ce qui nous a sauvés, c'est ça. C'est que nous, on ne poussera personne. Donc... peut-être qu'un jour, on a fait la promo d'un film quelque part ou d'un truc ou une sortie DVD dans une game zone en échange de la même maison d'édition d'avoir un artiste, mais c'était le seul effort qu'on pouvait faire parce que sinon, ça n'avait pas de sens, tu vois.
Ouais. Juste pour clore cette émission sur Level One Invité, juste une dernière anecdote parce que vous avez reçu une fan de jeux vidéo de la première heure, Josiane Balasco, qui est venue faire Level One Invité. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Josiane Balasco?
Elle est dingue de RPG, Josiane Balasco, mais depuis avant Game One, et encore aujourd'hui. Hein. Je l'ai entendu parler il y a 2 ans de son addiction à tout ça, et elle est très à l'aise avec ça. Josiane Balasco, en fait, elle est venue enregistrer Level One, et dans sa loge, la loge était décorée, il y avait une statuette de Lara Croft qu'un éditeur nous avait envoyée. Et sans demander son compte, elle est partie avec. Voilà. Josiane, si tu m'entends, j'espère que tu ne l'as pas cassée, mais elle est partie avec. Voilà. Elle s'est dit, c'est pas payé, je vais me payer. Et c'était un truc collector en plus. Hein, voilà. Moi, je me rappelle, parce que on n'était pas des relous chez Game One, et puis on n'était pas forcément fan de Lara Croft, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je me souviens encore de la prod qui vient me voir en disant, il y a une galère. Ou non, on m'a prévenu après. Ouais, j'étais pas là. Et on m'a dit, Jean-Pat. Balasco, si j'étais encore là, je dis des conneries. Si on m'a rendu compte de ça, on m'a dit qu'est-ce qu'on fait. Balasco, elle est partie avec la statuette. J'ai dit tu l'appelles une fois en lui demandant, et je crois qu'on l'a appelée. Elle a dit je m'en bats les couilles, et puis voilà quoi.
Ok, merci beaucoup Jean-Pat.
Je suis désolé, factuellement ça fait un peu du vol. On n'en veut pas à Josiane Balasco. Voilà, elle était passionnée d'un truc, mais il faut quand même le dire. Tu vois, c'est comme quand tu dis 5 fruits et légumes ou l'alcool est dangereux pour la santé. Ça s'appelle quand même un vol, mais on lui en veut pas.
On revient très très vite pour ma folle histoire de Game One. Merci beaucoup Jean-Pat.
Merci à toi, à très bientôt. Salut.
C'était ma folle histoire de Game One. Pour ne rien rater des épisodes, rendez-vous sur bienvu.tv et abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcasts.